Médialogue sur la première.
Le monde est-il en pleine révolution grâce ou à cause des nouvelles technologies de communication et d'information, Internet, téléphone portable? Est-ce que ça change fondamentalement la société humaine? Ce sont des questions qu'on se pose de plus en plus et les réponses ne sont pas faciles à apporter. C'est ce qu'on peut découvrir notamment dans un livre qui vient de paraître aux presses polytechniques et universitaires romandes. Le titre en dit déjà beaucoup.
Oui.
Techno-civilisation.
Un livre signé donc René Berger et Solange Garnaouti-Elli. Ceux qui s'intéressent à ce genre de réflexion connaissent sans doute le nom de René Berger, le philosophe, ancien directeur du Musée des Beaux-Arts à Lausanne, qui a écrit plusieurs livres sur l'évolution du monde. Il est décédé en janvier 2009. Alors Solange Garnaouti le connaissait bien. Elle est professeure à HEC Lausanne, experte en cybersécurité. Elle a repris des conférences de René Berger, des propos qu'il a tenus en dialogue avec elle également, pour composer donc cet ouvrage qui est co-signé. C'est elle qu'on va entendre surtout, mais je lui ai d'abord demandé de nous parler de René Berger. Et on va commencer par entendre un petit extrait d'une émission intérieure en 2006 où Daniel Fazan était allé donc chez René Berger et lui demander ce qu'est l'intelligence, réponse caustique.
La question que vous me posez sous cette forme montre qu'il y a un déficit considérable.
J'aime beaucoup que vous me défessiez d'emblée. Non mais votre définition de l'intelligence, c'est quoi? C'est une approche de la vie, un regard que l'on porte?
Non, mais vous me permettez de sortir des clichés que je considère éculés.
Vous êtes d'une méchanceté absolue.
Oui, mais enfin, il faut que je sois fidèle quand même à mon émerveillement pour le cosmos.
René Berger était un homme extraordinaire déjà, et un vrai savant, élevé aux lettres classiques, avec un doctorat en esthétique de la Sorbonne, passé, je crois, de mémoire en 1957. Et c'est quelqu'un qui avait une très grande expérience et une très grande curiosité du devenir et de l'impact des technologies, des médias, notamment sur notre société, sur les individus. Pour moi, c'était un visionnaire, quelqu'un qui était capable d'appréhender l'avenir tout en tenant compte des valeurs du passé, et notamment sa culture classique de lettres classiques, lui a permis de développer tout un parallèle avec ce qui était en train de se produire par rapport à l'avènement des numériques. Et c'était aussi quelqu'un d'assez formidable dans le sens où, malgré son âge, il avait envie de connaître l'avenir et de construire l'avenir. C'était pas un homme du passé, je dirais que c'était un homme de l'avenir.
Et c'est lui qui considérait que la société est en train de changer complètement?
Alors je crois qu'il a été un des précurseurs à identifier les signaux annonciateurs de ce changement incroyable qui s'est opéré ces dernières années. Nous en subissons nous aussi les bouleversements, parce que je crois qu'on est plus dans l'action de subir que de construire. Et c'était un de ses grands soucis, c'est de mettre en avant comment nous, humains, nous réapproprier cette informatisation de la société, d'une façon à ce que ça soit un peu plus conscient, et qu'on devienne des vrais acteurs des bouleversements technologiques et pas que des agents passifs de ces bouleversements.
Et c'est dans ce cadre-là que vous l'avez rencontré pour discuter ensemble de ces changements?
Alors effectivement, au milieu des années 90, nous avons eu l'occasion de rencontrer autour du que sais-je Internet, qu'un de mes assistants à l'époque était en train d'écrire et qui m'a fait connaître René Berger. Et là, c'était vraiment une rencontre au sens rencontre du terme, dans le réel, bien réel, où deux personnes, deux entités différentes, d'origines différentes, de visions différentes, se sont réunies autour de cette problématique de l'Internet, des nouvelles technologies, et de se poser la question ce en quoi ces technologies allaient nous amener du changement, peut-être dans du meilleur ou peut-être dans du pire. Et je crois que cette rencontre qui était bâtie autour d'un croisement de regards, moi j'ai un doctorat en informatique et télécom, et pur et dur des sciences dures. Il venait plutôt des sciences qu'on pourrait caractériser molles et soft, et c'est pas du tout péjoratif. Et je crois qu'on était un des premiers, peut-être, couples, entre guillemets, à aller vers cet interdisciplinaire. Et je crois qu'un des premiers mots que nous avons dit ensemble, c'est croiser nos regards. Ce qu'on avait besoin, nous, c'est de s'enrichir mutuellement. Et je crois que c'est le fait de construire une société, c'est ensemble qu'il faut la faire. Et c'est décloisonner l'université, décloisonner les savoirs, décloisonner les disciplines, puisqu'on voit, en tous les cas, avec l'informatique, que c'est un phénomène transversal qui touche tous les domaines. Toutes les activités sont médiées via la technologie. Alors, quelle est cette technologie? Quel est son pouvoir qu'on lui confère intrinsèque? Est-ce que c'est un vrai pouvoir ou est-ce que juste un pouvoir économique ou un pouvoir politique? Mais dans ce pouvoir-là, est-ce que ce n'est pas un pouvoir de créer une meilleure humanité?
Alors, ce livre « Techno-civilisation » est co-signé par René Berger et par vous-même, Solange Garnaouti-Elli. René Berger n'est plus là, puisqu'il est mort l'année dernière. Qui l'a écrit alors?
Alors, en fait, je crois qu'on l'a un peu tricoté ensemble. Lui, il a écrit des morceaux de texte. C'est beaucoup de ses discours, de ses réflexions, qui à l'époque, il appelait des cybergraines, qu'il diffusait un petit peu au gré de ses humeurs. Et l'idée, ça avait été de les reconstruire, de les mettre à portée de tout un chacun. Et je crois que moi, j'ai fait un travail de fourmi pour essayer de continuer à porter sa pensée, à la diffuser, à partager cette vision du monde via les technologies de l'information, ces technologies numériques, cette vision qu'il m'a donné à voir, qu'il a entrouvert aussi pour moi cette porte du merveilleux du côté des technologies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis comme spécialisée dans la cybercriminalité, la cybersécurité, tous les comportements déviants, enfin un peu la face noire des technologies. Et lui m'a porté du merveilleux. Alors ce merveilleux, on a voulu le rendre accessible, lui comme moi, peut-être au commun des mortels, à monsieur, madame, tout le monde, de faire découvrir ce qu'il y avait derrière l'instrument ordinateur. C'est pas qu'un instrument, c'est quelque chose qui a le pouvoir de modifier structurellement notre façon de penser, notre imaginaire et aussi notre façon de rêver.
Petite, on est un peu pris de surprise parce qu'on était en train de...
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'écoute, voilà, comme des auditeurs, et puis on oublie que c'est à nous de parler une fois qu'elle a fini.
Alors, on continue ce petit voyage dans la techno-civilisation en réentendant René Berger, toujours dans l'émission Intérieure en 2006, à propos de ce qu'Internet change au monde.
Si on considère Internet simplement comme une amélioration d'une bibliothèque, ce que beaucoup de gens font, dire « Ah, c'est formidable, j'ai une question, j'ai quasiment immédiatement une ou des quantités de réponses », on ne voit pas que notre destin actuel et notre avenir sont liés à l'évolution d'Internet. La révolution, enfin, pour le dire de façon outrageusement simpliste, consiste à pouvoir mettre en rapport, via l'ordinateur bien sûr, n'importe qui dans le monde, instantanément, pour n'importe quel type de référence. Ça n'a jamais existé, jamais. Or, il y a 12 ans, vous avez une idée de combien il pouvait y avoir d'internautes en Chine ?
Oh, quelques centaines, pas plus.
Voilà, pas plus. Maintenant, ils sont 130 millions. Donc, le changement de société amorce un changement de civilisation. Si bien que ce n'est pas de dire « il y a plus d'internautes en Amérique qui leur donnent une supériorité », mais c'est qu'on vit et on va vivre de plus en plus via les réseaux. Et c'est ce qui fait que vous avez un Web 1 et un Web 2 qui est en train de se mettre en place, qui incitera à ce que vous essayez de faire avec moi une opération de participation. Alors vous avez une dimension qui est un mot que vous utilisez sans cesse, le real time, le temps réel. Mais vous vous rendez compte de ce... Depuis qu'il existe des êtres vivants, il n'y a jamais eu de real time. Or, toutes les civilisations depuis l'origine de l'humain a consisté essentiellement à établir des liens à l'intérieur d'un groupe ou d'une société plus large, liens manifestés par une mémoire stabilisée à la faveur de monuments, d'activités comme la littérature, les mythes. C'est-à-dire une mise, je ne dis pas en conserve, ce qui est un peu, mais une mise en archive. La mise en archive est le lieu de la vérité. Maintenant, la mise en archive, c'est vraiment une mise en conserve provisoire. C'est-à-dire que ce qui passait pour être le savoir définitif à mémoriser devient une mémoire circonstancielle qui dure un certain temps avant l'irruption de la mémoire immédiate, ce qui est une contradiction dans les termes. Mais nous vivons justement dans une logique contradictoire, ce qui montre bien que la logique traditionnelle binaire répondait à un état de fait et à un état de civilisation et d'équipement qui n'est plus le cas aujourd'hui.
René Berger, en 2006, dans l'émission de Daniel Fazan, retour à 2010.
Oui, avec Solange Garnier-Aouti. Alors, je lui demande en quoi les nouvelles technologies nous font basculer, selon elle et selon René Berger, selon tous deux, dans une nouvelle forme de civilisation.
Ces technologies existent, elles nous envahissent, elles deviennent de plus en plus petites. C'est-à-dire, si elles sont petites, elles sont invisibles. La preuve en est les puces RFID qu'on greffe sous les peaux des chiens. Il n'y a plus un chien qui n'a pas sa puce. Les chiens sont pucés, les chevaux sont pucés, même les animaux sauvages sont pucés pour les suivre à la trace. C'est-à-dire qu'on a avec également la téléphonie mobile, parce que ce téléphone mobile, c'est un téléphone internet, c'est un téléphone ordinateur. Donc avec l'évolution des composants électroniques et des savoir-faire en matière de développement logiciel, on a intégré sur des équipements de plus en plus petits, de plus en plus invisibles, capacité de traiter de l'information. Ça veut dire quoi la traiter ? Ça veut dire la sauvegarder, la transformer, hein, l'analyser, la communiquer, la transmettre. Et ça, on en est entouré d'objets communicants. Notre passeport est un objet communicant maintenant avec la puce électronique. Alors, pour revenir sur le téléphone, ce qu'a produit le téléphone, c'est la mobilité de l'utilisateur et le fait de rendre le réseau transparent. On est tout le temps dans un environnement de réseau avec ses ondes. L'information est véhiculée, elle est accessible partout. On a notre infosphère, les sphères de l'utilisateur, des enfants, des moins jeunes, de tout le monde dans la poche, avec nous tout le temps. Et on se déplace avec notre liste de contacts, notre liste d'amis. Et je crois que pour s'en convaincre, il suffit de regarder un peu la publicité de la téléphonie, notamment, et de l'Internet, avec cette accroche qui, pour moi, je trouve un peu dangereuse. C'est être tout le temps avec ses amis, à proximité, donc jamais détaché, et toujours pour jouer. Et moi, ça me choque, parce que qu'est-ce que je dis, moi, à mes enfants quand, pour travailler ? Ce qu'on nous incite, c'est du jeu, c'est du ludique. Et parce qu'on nous fait croire au rêve de l'amour avec la téléphonie. Moi, je suis un peu étonnée des publicités qui nous vendent de l'amour et de l'amitié. Ils ne s'engueulent jamais dans les pubs au téléphone. Et donc, c'est une vision de la réalité qui est un petit peu déformée. Cette vision-là, il faut se la réapproprier. Quand on parle de société de l'information, et ce n'est pas un terme que j'ai inventé, ça a même fait l'objet d'un sommet mondial en 2003, et en 2005, société de l'information, ça veut bien dire qu'on est bien sûr dans une société industrielle, mais la valeur, elle est mise où ? Elle est mise dans l'information. Ce qui compte pour la banque, c'est pas les lingots d'or, c'est l'information sur l'or, c'est l'information sur les billets. Et cette valeur liée à l'information, qui avec les technologies du numérique sont devenues des informations immatérielles, c'est-à-dire indépendantes du support physique, l'information existe, elle peut être dupliquée, il n'y a plus d'original, il n'y a plus de copie, puisqu'il n'y a que des copies à l'identique. Ça donne cette ubiquité dans le temps et dans l'espace. La même information peut être partout, sur plein de serveurs différents, y compris dans votre téléphone, y compris sur votre clé USB, y compris sur votre lecteur MP3. Et ça vous donne aussi la capacité donc, de cette ubiquité donc, dans l'espace, plusieurs endroits différents, la même information, et ubiquité dans le temps, puisqu'on est dans le temps réel. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a cette dimension planétaire et d'effaceur de frontières. Pour les frontières, c'est les frontières géographiques, bien sûr, puisque qu'on envoie un message au voisin d'à côté ou quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, c'est la même chose, c'est la même interface, c'est les mêmes logiciels et c'est du quasi-temps réel. L'effaceur du temps, puisque c'est instantané ou quasi instantané, et l'effaceur des mondes professionnels et privés, on le voit bien, et nous-mêmes, professionnels, nous vivons, on travaille à la maison, on travaille au bureau, et au bureau, on fait des choses aussi peut-être un peu privées, je ne suis pas sûre, mais c'est le même outil pour communiquer à des fins professionnelles qu'à des fins privées, qu'à des fins ludiques. C'est aussi l'effacement des frontières, peut-être on s'en rend moins compte, entre le civil et le militaire, on a tous les mêmes outils. C'est la guerre de l'information, par l'information, pour l'information. Et c'est la frontière, l'abolissement des frontières entre les jeunes et les moins jeunes, entre les bienveillants et les malveillants.
On voit bien l'ampleur de tous ces changements que vous soulignez, Solange Garnaouti. On voit aussi que ce sont des changements qui sont venus sans qu'on les ait tellement préparés, sans qu'on se soit tellement posé la question de comment s'y adapter. Maintenant, c'est ça qu'on aimerait entendre de vous, c'est comment bien s'y adapter.
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je vais venir peut-être d'une façon détournée. Je crois que la réponse, c'est ensemble que nous devons la trouver. Ce n'est pas moi, Solange Garnaouti, qui vais la porter. Je n'en ai pas les moyens, ni cette prétention d'ailleurs. Mais je crois que le problème, c'est qu'on est venu à ces services de la société de l'information via ces technologies avec des modèles d'ingénieurs. On s'est intéressé en transmission, d'abord pas en communication. La communication suppose qu'il y ait deux personnes pour communiquer. La transmission, ça suppose que des tuyaux. Et tout a été basé sur les tuyaux, sur les théorèmes de Shannon, sur des théories mathématiques de la transmission. Et ce qu'il ne faut pas oublier avec l'ordinateur, c'est qu'en anglais, ça s'appelle un computer. Un computer, c'est pour computer, c'est-à-dire pour calculer. C'est une suite d'opérations arithmétiques et logiques. Mais on ne peut pas réduire la complexité humaine et de la vie du vivant à une suite d'opérations arithmétiques et logiques. Et alors peut-être, une des façons de se réapproprier ce questionnement, c'est laisser tomber ces modèles d'ingénieurs où on oublie complètement la finalité, où on s'intéresse à l'optimalité. Hein. C'est utiliser le moins de ressources possible pour communiquer efficacement, mais en termes quantitatifs, et s'interroger peut-être en termes qualitatifs et de spiritualité et poétique. Et je crois qu'une des façons de repenser les technologies du numérique, c'est de regarder ce que font les artistes avec ces technologies-là. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de nous montrer la part de merveilleux de ces technologies, de nous construire notre avenir avec une autre vision du monde à partir de ces mêmes technologies.
Vous avez le sentiment que ces technologies ont pris le pouvoir sur nous ?
Je crois que non, c'est un pouvoir économique. Hein. C'est pas qui passe par les technologies, c'est la technologie, on en vend, et c'est ce qui fait vendre. Hein. Mais je crois que c'est plutôt un pouvoir économique. Et peut-être la grande difficulté avec ce type de chamboulement, c'est que cette technologie, elle est mal appréciée ou mal connue, je dirais, des politiques. C'est un environnement différent. Pourquoi ? Parce qu'on a cloisonné l'enseignement. Pour faire des technologies, il fallait être dans une filière de technologie. Pour faire de la philosophie, il fallait être dans une filière de philosophe. Mais il n'y avait pas cette approche un peu transversale d'interdisciplinarité. Je crois qu'un des grands avantages de cet ouvrage, c'est d'ouvrir sur l'interdisciplinarité, sur la transdisciplinarité. Il y a beaucoup de références faites à la littérature, à la mythologie, à la religion, pour se regarder les technologies avec des regards différents, justement. Alors moi je crois ce qu'il faut surtout préserver par rapport à Internet, ce qui me ferait peur, c'est la globalisation de la pensée. C'est répéter à l'identique des interviews, des courants de pensée, être dans la mode et de perdre cette pluralité des visions, des esprits. Et Internet, ça peut être quelque chose de très réducteur finalement. On peut s'ouvrir soi-disant sur le monde entier, intégrer cette diversité, mais en réalité c'est pas une vraie diversité. D'abord elle est médiée par la langue, ce qu'on trouve comme information sur Internet c'est beaucoup exprimé en anglais, plus ou moins correct. Après on a tous ces traducteurs qui traduisent plus ou moins bien, mais moi j'étais étonnée de voir que des interviews que j'avais faites dans une langue, je les ai retrouvées dans 36 000 langues différentes. Ça m'a un petit peu interpellée. L'information, on a l'impression que sur Internet elle est beaucoup répétée, elle est pas très, elle est pas forcément beaucoup analysée, sélectionnée, contextualisée. Et je crois qu'un des défis de l'Internet, c'est être capable d'apporter de l'information dans un contexte donné pour une population donnée d'internautes. On n'est pas tous pareils. Bien sûr qu'on est tous pareils, mais on est tous différents. On n'a pas les mêmes besoins. L'information donc, qui pourrait être utile à un Africain au fin fond du désert, ce n'est pas forcément la même que celle dont on a besoin, nous, ici. Il faut être capable de la contextualiser, de donner l'information adaptée au lectorat. Et ça, c'est difficile parce que on ne sait pas distinguer les internautes.
Mais en même temps, aujourd'hui, il est possible aussi d'avoir une consommation très individualisée, notamment par les réseaux sociaux, où on a des contacts avec les gens qui partagent les mêmes goûts, qui partagent les mêmes intérêts, où on ne s'abonnerait qu'à des newsletters qui parlent de sujets qui nous intéressent. On peut aussi avoir un éclatement social avec Internet, non ?
L'éclatement, je ne sais pas. Moi, je crois qu'on refait des communautés telles qu'elles existent, mais en leur donnant encore plus de puissance. On ne va pas vers l'autre différent, on va vers l'autre qui est pareil. Et c'est le même type d'informations qu'on s'échange dans ces réseaux-là. Je ne sais pas, c'est une piste peut-être. Moi, ce que je trouve difficile dans l'information, accéder à Internet, c'est qu'on ne sait jamais si elle est vraiment tout à fait juste ou tout à fait véridique ou authentique. On ne sait pas d'où ça vient. Et ça peut parfois paraître... ça peut parfois poser problème quand même. Et quand on voit par exemple sur Wikipédia qu'un fabuleux outil d'accès à l'information, mais qui est aussi très réducteur, et on voit bien que c'est des définitions qui sont en chantier, qui sont susceptibles d'être modifiées. Et quand on regarde la même définition traduite du Wikipédia français vers le Wikipédia anglais, ou plutôt dans l'autre sens, c'est pas tout à fait la même information. Je crois qu'avec Internet, le leurre, c'est qu'on est capable d'avoir beaucoup d'informations, mais en fait, pour que l'information soit vraiment pertinente, il faut prendre le temps de la croiser, de diversifier un peu les sources, de s'interroger sur cette information. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Mais c'est aussi un danger plus large du virtuel, simplement que le virtuel, on peut moins facilement l'identifier, le palper, le sous-peser.
Le problème, c'est qu'on met tout et n'importe quoi sur ce réseau. Et c'est ce qui fait la beauté du réseau, c'est cette capacité de donner à tout un chacun le pouvoir, qui est un pouvoir relatif, de créer cette information. Parce qu'on le voit, les blogs sont quand même censurés, il y a de l'autocontrôle. Et c'est une illusion de liberté qui est donnée. Et nous, enseignants, par exemple, par rapport au plagiat sur l'Internet, ça m'oblige à repenser la façon dont je pose mes questions. Si je dois leur faire rendre un travail écrit à mes étudiants, je vais poser une question qui les obligera, même s'ils copient quelques informations sur Internet, de réfléchir dans la formulation. Donc nous-mêmes, dans nos pratiques, on est obligés d'intégrer le fait que l'information de base est dans l'Internet, est sûre ou accessible sur l'Internet, et que si on veut tester les connaissances réelles de l'étudiant, il faut les tester autrement qu'en lui faisant régurgiter quelque chose, parce qu'on sait que ça va être du copier-coller. Et c'est ce que je dis dans mes cours. Si vous êtes là, c'est pour partager quelque chose avec moi, sinon vous avez tout sur Internet. Alors moi, ce que je vais vous dire, ce n'est pas des trucs que vous avez trouvés sur Internet. Donc moi, ça m'oblige à repenser le niveau de discours que je vais donner à mes étudiants. Sinon, ils ont autre chose à faire. Ils peuvent rester chez eux au chaud, accéder à des informations si c'est que des informations très, très basiques ou très contextuelles.
Mais est-ce que c'est un avantage pour vous comme enseignante, c'est-à-dire que vous n'avez plus à tester les choses que vos étudiants ont mémorisées, parce qu'on n'a plus tellement besoin de mémoriser, on trouve tout facilement, on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait ?
Exactement. Là, c'est aussi un des gros avantages finalement, parce que il faut quand même qu'ils mémorisent quelques invariants. Mais ce que je leur donne, moi, c'est les pistes de raisonnement, c'est construire des choses avec des informations qu'ils peuvent trouver maintenant en libre accès sur Internet. Et c'est peut-être ça le rôle de l'enseignant, en tous les cas au niveau universitaire, c'est leur donner les moyens de s'approprier cette fabuleuse bibliothèque qu'est Internet, ce savoir pour en faire des connaissances. Et c'est pas parce qu'on a accès à Internet qu'on a accès à la connaissance. Et je crois que c'est un raccourci qu'il faut oublier de faire. Il nous faudrait pas faire, puisque la connaissance, c'est pas l'information. Mais c'est leur donner les moyens de traiter cette information et de se l'approprier et de construire quelque chose avec l'information qu'ils peuvent avoir accès via Internet.
On parle beaucoup de la génération née avec le numérique. Est-ce que vous voyez cette génération avoir des attitudes différentes par rapport à l'acquisition du savoir et la maîtrise du savoir ?
Oui, là, je ne sais pas, j'ai peut-être pas assez de recul sur la maîtrise du savoir, mais le réflexe technologique qu'ils ont d'accéder à l'information, je vais peut-être répondre différemment. Moi, ce que je vois en tous les cas dans les cours, c'est que tout le monde a accès par le Wi-Fi qui est un peu partout, omniprésent. Et moi, ce que j'aimerais bien pouvoir, c'est à moi, en tant que prof, avoir un bouton dans la salle pour couper le Wi-Fi de temps en temps. Mais ce que je leur dis, ce qui est fabuleux pour moi, c'est qu'ils discutent plus, ils font plus de bruit, puisqu'ils s'envoient des messages et ils jouent en ligne. Certains, pas dans mes cours, bien sûr, ils ne le font pas, mais ils auraient le pouvoir de le faire. Donc pour le prof, finalement, c'est très tranquille d'avoir accès à l'Internet en cours, parce qu'ils peuvent faire autre chose. Donc, bon, là, on peut se poser la question de l'intérêt de faire autre chose pendant les cours.
Et vous avez toujours peut-être un doute aussi sur quelle est l'attention donnée à ce que vous dites.
Moi, parfois, j'ai pas de doute. Hein. Mais en fait aussi, les étudiants font la part des choses. Il y en a qui savent très bien que s'ils veulent profiter du cours, c'est de s'intéresser au cours directement et pas être cachés derrière leur écran à faire autre chose. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, moi, ce que je vois dans mes pratiques d'enseignement, c'est que je leur demande, par exemple, on parle de quelque chose, j'imagine, quelqu'un qui est connecté, regardez sur tel site, qu'est-ce qu'ils en disent ? Qu'est-ce que vous comprenez de ce site par rapport à ce que je viens de dire ? Donc ça permet de donner d'autres éclairages, d'autres types d'informations et de discuter, d'ouvrir le débat, de confronter les expériences, les savoirs. Et c'est dans ce sens-là aussi pour lequel nous, il nous faut apprendre à construire des cours, à diffuser de l'information. Et je crois que notre rôle, c'est de partager, d'éveiller, de sensibiliser et de leur donner le moyen de faire au mieux avec ces outils-là.
Technocivilisation, c'est le titre du livre signé par Solange Guernaouti-Elie et René Berger. Il paraît aux presses polytechniques et universitaires romandes.